Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 novembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, du jamais vu à cette période dans le détroit de Calais, les tentatives de traverser des migrants vers l'Angleterre explosent. Des centaines de personnes secourues en deux jours, 30 opérations de sauvetage et un drame à terre hier. Un réfugié percuté par un TER à Calais. On voit ça en détail, Anaïs, après les autres titres.
Première prise de parole publique de Greta Thunberg aujourd'hui à la COP26, journée des jeunes. Il manifeste pour faire pression sur les gouvernements, mais la jeune Suédoise prend ses distances avec les dirigeants. L'Allemagne confrontée à une recrudescence des cas de Covid-19, reportage dans ce journal. Et puis il a fait chavirer le public de Bercy au bout de la nuit, l'exploit du tennisman Hugo Gaston qualifié pour les quarts de finale.
Invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, c'est le débat écho avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ils échangeront sur les derniers chiffres de l'INSEE concernant la pauvreté en France avant et après le Covid. À 8h20, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, seront mes invités. Ils viennent nous présenter ce qu'ils appellent le pacte du pouvoir de vivre. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter, Saint-Jean-de-Luz, le 12 octobre, Calais, hier, 1000 kilomètres entre ces deux villes aux confins de la France, et le même drame, des migrants marchant le long des voies ferrées percutés par un TER. À Calais, hier, 4 personnes ont été fauchées, un homme est décédé, un autre en urgence absolue, Antoine Barège.
Le conducteur du TER Dunkerque-Calais n'a pas eu le temps de s'arrêter vers 18h30, quand il a aperçu un groupe d'une cinquantaine de migrants sur la voie ferrée dans le quartier Beaumarais. Il était trop tard, un homme est décédé et 3 autres ont été blessés, dont un qui est en urgence absolue. On ne connaît pas l'âge des migrants, mais ils seraient tous érythréens. Le conducteur, très choqué, est resté de très longues minutes dans son train. Il craignait d'être agressé et il a été pris en charge par les pompiers. Selon le parquet de Boulogne, la voie ferrée à Beaumarais est un lieu de passage régulier des migrants. Ils l'empruntent pour rejoindre un campement.
Antoine Barège, France Bleu Nord pour France Inter. Calais, où deux militants associatifs continuent leur grève de la faim pour demander un moratoire sur les évacuations quasi quotidiennes des campements. 40 000 réfugiés sont arrivés sur le littoral nord depuis le début de l'année, dit le médiateur envoyé par l'État à Calais, Didier Lesky, avec cet espoir de gagner les côtes anglaises. Et ces derniers jours, les tentatives de traverser de la Manche se multiplient. Hier matin, le corps d'un exilé a été retrouvé dans une embarcation de 3,50 m remplie d'eau sur une plage de 800. À ses côtés, deux compagnons d'infortune en hypothermie sévère, Alain Gastal.
Et pourtant, près de 800 migrants avaient été récupérés en moins de 24 heures par les bateaux de la préfecture maritime ou encore par les bénévoles de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, qui constatent que des embarcations de plus en plus grosses et surchargées tentent des traversées impossibles. Bernard Baron est le patron de la SNSM à Calais.
Les passeurs disent à leurs clients, entre guillemets, allez-y, c'est en face, vous voyez, les côtes d'Angleterre sont toutes proches, et évoquent la galère, mais le problème c'est que la galère, elle rencontre une mer particulièrement dangereuse. Il y a 300 bateaux qui passent dans chaque sens sur le détroit du Pas-de-Calais par jour. Et il est bien évident que ces bateaux qui traversent, ces pneumatiques remplis, surchargés, sont des dangers pour eux-mêmes.
La préfecture maritime a comptabilisé plus de 15 000 tentatives de traversée depuis le début de l'année, un total sans précédent qui fait craindre un bilan plus lourd encore. Ludivine Collat est la coordinatrice d'Utopia 56, une association d'aide aux migrants.
On se demande souvent, mais comment on fait pour survivre à de telles températures? Comment on fait pour survivre à une traversée qui représente de multiples risques quand même, vitaux? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose souvent. Et oui, en fait, oui, on craint énormément des décès cet hiver.
Et plusieurs navires de la marine, des vedettes de la gendarmerie ont été déployés sur zone pour porter secours. 30 opérations de sauvetage en 48 heures. Plus de 24 000 personnes ont tenté la traversée depuis le début de l'année. Phénomène exponentiel, cela n'avait concerné que 9 500 personnes en 2020.
France Inter, il est 7h04, assez de blabla. C'est le jour des jeunes à la COP26 de Glasgow.
Oui, dans le centre de conférence, le manifeste des 400 jeunes du monde adopté à Milan doit être transmis aux négociateurs. Mais dans la rue aussi, des milliers de jeunes attendus en Écosse contre, je cite, les promesses creuses des gouvernements. À leur tête, Greta Thunberg, première prise de parole attendue et le ton est déjà donné sur Twitter. Ce n'est plus une conférence climat, c'est un festival de greenwashing des pays riches. Elle parle de blabla. Pour Nicolas Hiringer de l'ONG 350.org, la jeune activiste suédoise est un peu en froid avec les chefs d'État et elle cherche à prendre de la distance.
Elle est moins sollicitée qu'auparavant parce que je crois qu'au début, Il y avait un peu la volonté de tous les chefs d'État et de gouvernement de faire un selfie avec elle, de la rencontrer. Et maintenant, ils et elles se sont rendus compte qu'en fait, elle a un discours qui correspond pas à leur grand récit du leadership qu'ils prétendent incarner. Boris Johnson, dans son discours, a cité la fameuse phrase de Greta sur le blabla, le fait que ce qui se passe à l'intérieur, c'est que du blablabla. Et il a un peu exhorté, en fait, les délégués à sortir de ça. C'est assez paradoxal, par ailleurs, parce que Johnson a trollé à plusieurs reprises Greta, en fait, y compris sur Twitter. Donc là, il y a une espèce de retournement de situation. Donc il y a des tentatives un peu désespérées, quoi, de Greta washing, quelque part. Et donc je pense qu'aussi, elle veut plus se prêter à ça. Je crois que c'est quelque chose de très fort de sa part de dire que le vrai leadership, il est à l'extérieur, il est dans les mouvements et pas dans les négociations. Ce qui se passe en termes d'action pour le climat, c'est ce qui se passe à l'extérieur.
Nicolas Héringer avec Sandy Dauphin, il sera tout à l'heure dans les cortèges. Selon les dernières estimations de l'ONU, la planète se dirige vers un réchauffement catastrophique de plus 2,7 degrés, ce qui risque d'entraîner des dégâts irréversibles, en particulier sur la grande barrière de corail australienne. Seuls 2% ont échappé au blanchissement massif du plus vaste ensemble corallien du monde. Au monde depuis 1998. Triste étude qui vient d'être publiée aujourd'hui. Le blanchissement est dû à une température de l'eau trop chaude, mais la fréquence, l'intensité, l'ampleur des vagues de chaleur marine ne cessent d'augmenter. Aux États-Unis, rendez-vous politique crucial pour Joe Biden et dénouement proche. La Chambre des représentants vote enfin aujourd'hui sur les plans d'investissement géants, projet historique selon la Maison-Blanche, des milliards de dollars pour les transports, le social et le climat. Et puis les États-Unis qui, sur le front du Covid, ont décidé hier la vaccination obligatoire des salariés du privé d'ici au 4 janvier. Alors que, comme un macabre retour de balancier, le continent européen se retrouve, lui, à nouveau au cœur de la pandémie mondiale. Quatrième vague massive, dit l'OMS, inquiète du rythme de transmission sur le continent. En Allemagne, le record de contamination quotidienne de décembre 2020 a été dépassé. Mais les négociations en cours pour former un gouvernement paralysent toute décision. Et les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme. À Berlin, Nathalie Versieux.
Il est 18h et le centre de dépistage à proximité de l'université ne désemplit pas malgré la pluie battante. Yousenia, une jeune étudiante, attend son résultat.
Mon université demande un certificat de vaccination, de guérison ou un test négatif. Comme je ne suis pas encore complètement vaccinée, je dois me faire tester. Je le fais tous les jours, sinon je ne peux pas assister aux cours.
D'abord opposée à la vaccination, la jeune fille a fini par céder face à la pression de l'université. Avec 20 000 nouveaux cas en 24 heures et quelques 195 morts chaque jour, l'Allemagne est particulièrement frappée par une quatrième vague de la pandémie. Une vague des non-vaccinés, selon le ministère de la Santé. Le nombre des hospitalisations pour Covid a augmenté de 40% en une semaine. 55,6 millions d'Allemands sont vaccinés, soit 66% de la population. C'est trop peu pour les responsables politiques, alors que 65% des non-vaccinés ne veulent en aucun cas recevoir le vaccin. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
À Bordeaux, un foyer d'infection à l'hôpital Saint-André. 15 soignants positifs dans un même service, celui des maladies infectieuses, et 9 patients contaminés. Tous soignants et patients étaient doublement vaccinés. Pas de forme grave repérée pour l'instant.
Il est 7h08. Didier Raoult, entendu ce matin par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins.
2 plaintes contre lui de ses pairs pour entorse au code de déontologie, notamment pour la promotion de l'hydroxychloroquine en pleine crise du Covid-19, malgré l'absence d'effet, toujours pas prouvé aujourd'hui. Autre plainte contre le professeur pour des attitudes anticonfraternelles. Il n'y a rien de précis, dénoncent les avocats de Didier Raoult, qui a lui-même déposé plainte contre le président de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. L'audition a été dépaysée à Bordeaux. On y revient à 7h30. Alexandre Benalla, lui, sera fixé sur son sort cet après-midi. Jugement rendu dans l'affaire des violences du 1er mai. L'ex-proche collaborateur d'Emmanuel Macron poursuivi pour avoir brutalisé des manifestants en 2018. 18 mois de prison avec sursis avaient été requis. Le marché de l'immobilier va-t-il ralentir dans les mois à venir? Alors que plus d'un million deux cent mille logements ont été vendus en 2021, un record, eh bien la question on se pose, car une norme que tout acheteur connaît bien, ne pas dépasser un taux d'entêtement d'un tiers, eh bien cette norme va devenir obligation dans 2 mois pour les banques. Elles ne pourront plus prêter aux particuliers au-delà de 35% de taux d'endettement pour une durée de prêt qui n'ira pas au-delà de 25 ans. Maxime Zeps, cette mesure devrait avoir un impact sur le marché immobilier. immobilier.
Pour Cécile Roclor, qui travaille pour le courtier Empruntis, le ralentissement semble avoir déjà commencé. 12% de projets concrétisés en moins sur les deux premiers mois de la rentrée.
Cette baisse, elle est suffisamment significative pour qu'on la regarde de près.
Aujourd'hui, les banques peuvent encore exceptionnellement déroger à cette règle qui durcit l'octroi de prêts à un taux d'endettement maximal de 35%. Mais ça ne va pas durer. Les candidats au crédit doivent s'y préparer.
Les banques seront obligées de l'appliquer fermement à partir du 1er janvier et ça pourrait jouer sur des profils qui ont besoin de s'endetter plus ou d'emprunter plus longtemps comme des ménages un peu plus modestes. Et ça jouera certainement un peu plus durement au printemps de l'immobilier puisque là, on a un afflux de demandes beaucoup plus important.
Car pour l'instant, les effets restent somme toute assez limités, venue en cesse cette spécialiste qui estime au doigt mouillé à 30% jusqu'ici le nombre de projets avortés par cette nouvelle mesure. Les autres 70% relevant plutôt de la flambée des prix qui tempère les acheteurs.
Avec la crise sanitaire et l'évolution des prix dans les grandes villes, on a des prix qui viennent amputer la capacité à réaliser un projet parce qu'en fait les revenus n'ont pas augmenté de la même façon que les prix de l'immobilier.
Hausse des prix et restriction des crédits avec des taux qui restent bas, l'eau de consolation à condition de pouvoir emprunter.
Maxime Deps. À Lourdes, la suite de l'assemblée plénière des évêques, la question des abus sexuels au cœur des discussions aujourd'hui. Après deux jours consacrés à l'écologie et la pauvreté, une décision sur les suites du rapport Sauvé est attendue lundi. Bercy, plein comme un œuf, à minuit et demi passé, entamant la Marseillaise. Hugo Gaston savoure, c'est que du kiff d'être ici. Le jeune tennisman toulousain a encore fait chavirer le cœur du public français. Un ace pour clouer son adversaire. Il est minuit 37. Le 103e joueur mondial vient de se qualifier pour les quarts de finale du Masters 1000 en battant Carlos Alcaraz et Adèle Bellumri était là.
Peu avant 23h, l'accueil fait à Hugo Gaston donne le ton de la soirée. Le Toulousain de 21 ans a déjà le public dans la poche, dans un Bercy plein à craquer, près de 15 000 spectateurs. Dans les tribunes tout en haut, Nicolas a franchement les pires places. Il est assis juste derrière un garde-corps et face à ses yeux, une barre.
C'est compliqué, surtout que Hugo, il est un peu petit, donc on arrive à le voir entre les barres, mais ça va, on se régale. Il fait du beau jeu, donc c'est l'essentiel.
On a des sales places, mais ça fait tellement plaisir de retourner dans des stades et de voir des tennismans comme ça, avec du public, c'est vraiment génial. Donc on s'en fout des places, on kiffe le spectacle.
À chaque point gagné par Hugo Gaston, la foule est en délire. Et l'apothéose vient lors du deuxième set. Hugo Gaston fait une remontada et gagne 7 jeux consécutifs avant de remporter le match. Bercy est en fusion et Hugo Gaston espère pareille ambiance pour ce vendredi soir.
En espérant qu'il y ait autant de monde, encore merci à tous puisqu'il est tard, merci d'être resté.
Aucun doute, l'ambiance sera de nouveau électrique ce vendredi soir à Bercy. Hugo Gaston affronte le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev.
Et la marche sera haute. Medvedev est aussi tenant du titre. Football Ligue Europa Lyon, premier qualifié pour les huitièmes de finale 3-0 contre Prague. Mais mauvaise opération de Marseille. 2-2 à domicile face à la Lazio de Rome.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, secret d'info aujourd'hui sur la fraude aux études scientifiques.